Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci d'être avec nous. Nous venons alors de ce week-end et c'est un nouveau défi, hein, une nouvelle semaine bien sûr et c'est un nouveau défi. Nous sommes au lundi 11 novembre 2024, il sont 11h sur votre radio et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Bienvenue à ce premier numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vito Beitomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabao. Merci également à vous tous qui nous suivez partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, sur le continent africain, aussi dans le monde entier. Nous en parlons toujours avec nos confrères journalistes en studio. Avec moi, nous sommes lundi. L'équipe de lundi est déjà en place. Uriel Enyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Un spécial bonjour à mes parents de l'autre côté dans les montagnes de Palgou qui se préparent à récolter aisément le sorgho et les ignames.
Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je souhaite une bonne semaine de travail à tous ceux qui sont en train actuellement de nous écouter. Et comme on le dit souvent, les malades qui sont dans ces hôpitaux, ceux qui sont à la maison, ceux qui nous écoutent actuellement dans les taxis, ceux qui sont dans leur bureau, la diaspora togolaise un peu partout, nous vous saluons partout où vous êtes. Je voudrais, Pascal, spécialement souhaiter beaucoup de courage à tous les compatriotes actuellement qui sont à l'écoute. C'est vrai que la vie est un peu chère actuellement. Vous voyez, chaque Togolais est devenu aujourd'hui un rappeur. C'est-à-dire qu'il chante seul, il rit seul, il applaudit seul. Donc, les Togolais sont devenus des rappeurs. Donc,
c'est le constat que vous avez fait, Jacques.
Hein?
C'est le constat.
Oui,
vous allez voir. Certains Togolais.
Bon,
justement, la majorité. Certains Togolais, allons-nous dire.
Bon, en tout cas, c'est un constat que moi j'ai fait. Certains que j'ai vus sont devenus des rappeurs. Parce qu'ils chantent seuls, ils applaudissent seuls, ils s'apprécient seuls. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a un problème. Donc, je voudrais souhaiter beaucoup de courage à ces compatriotes. Ce n'est pas facile, mais il faut tenir. L'espoir est toujours permis et reconnaître que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, c'est vrai que nous avons un petit temps à passer, mais que nous puissions vivre quand même avant de partir un jour. Une fois encore, bonne semaine à tous ceux qui sont en train de nous écouter.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelqu'un qui le disait tout de suite au micro. Il y a pratiquement trois présidents dans ce studio. Et je sais que le deuxième président, puisque nous allons avoir aussi le troisième président, et bien sûr, nous allons vous le présenter dans un instant. Mais le deuxième président, c'est bien Gosson Ketomania. Gosson, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je rends grâce. Je saisis l'opportunité pour adresser mes sincères salutations aux lecteurs de Liberté, aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je saisis l'occasion, je ne l'ai jamais fait, pour adresser un coucou spécial à mon petit frère et ma petite sœur. La sœur vient de me dire bon boulot avant que je n'entre en studio. Le petit frère, lui, m'a envoyé des vidéos hier, des images hier, par rapport à mon boulot, à lui aussi, je fais un clin d'œil.
Vous admettez quand même que vous êtes président.
Par rapport à ce que Jacques vient de dire tout à l'heure, que de plus en plus de Togolais deviennent des rappeurs. Ils chantent seuls, s'apprécient seuls, bégayent seuls. C'est peut-être en ce sens-là que moi, en tant que président des journalistes pauvres, très endettés, une association virtuelle, je me dis, il est de bon ton dans un pays pauvre, très endetté, qu'il y ait une association de journalistes pauvres, très endettés, parce que ce serait un leurre que de laisser croire que le monde des journalistes est un monde où tout va bien. Ce qui est loin d'être la vérité.
D'accord, ok. Merci, cher confrère, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous commençons cette émission avec ce concours, un concours de meilleure production et, médiatique sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et c'est tout à fait avec, avec alors des personnes ressources hein, de la APLUSIA. Nous avons Dr. Talaki. Docteur Talaki, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, par la grâce de Dieu.
Vous êtes le directeur de la prévention de la APLUSIA et vous êtes le président aussi du comité d'organisation du concours des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Alors, vous ne serez pas seul alors dans ce studio. Je parlais des présidents. Il y a un troisième président qui nous a rejoint. C'est bien Fabrice Pétizi. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour également à tous les auditeurs de Canal FM.
Vous êtes le président de l'Observatoire Togolais des médias, OTM, et merci d'avoir répondu à notre invitation puisque vous êtes en collaboration avec la APLUSIA pour ce concours alors de production médiatique pour lutter contre la corruption. Et alors, docteur Talaki, concrètement, qu'est-ce qui a motivé la APLUSIA à initier un tel concours?
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord adresser au nom du président de la APLUSIA nos remerciements au directeur de la radio Canal FM pour l'opportunité que vous nous offrez afin d'échanger autour du concours des meilleures productions médiatiques qui a été lancé le 24 octobre dernier. Je voudrais également adresser mes remerciements au personnel technique de la radio pour toutes les commodités prise pour nous installer confortablement sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'organisation du concours des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption? Je voudrais tout d'abord souligner que l'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de la mission de prévention de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Une mission qui se réalise au moyen des actions de communication, de sensibilisation, d'information, d'éducation et de vulgarisation des tests relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Et donc, l'organisation de ce concours, c'est pour la APLUSIA, c'est d'impliquer davantage les médias dans ces actions de prévention. Parce que nous estimons que nous ne pourrons mener à bien la lutte contre la corruption sans associer tous les acteurs impliqués. Et les médias constituent pour nous un acteur privilégié dans la prévention et la lutte contre la corruption parce que les médias pourront quand même nous aider à porter loin nos messages à l'endroit de différentes populations pour un éveil de conscience et la prise de conscience également face aux actes de corruption. Voilà la raison principale qui motive l'organisation de ce concours.
Et c'est vrai que le thème à l'affiche lors de ce concours, c'est l'impact de la corruption sur le développement. Et vous l'avez si bien dit, le lancement a été fait depuis le 24 octobre dernier. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui sera fait avec ce thème concrètement?
Merci, monsieur le journaliste. Il faut d'abord dire que aujourd'hui, il n'est secret pour personne que la corruption constitue un véritable problème de développement. La corruption, en tout cas, constitue un obstacle redoutable au développement économique et social. Au regard des chiffres, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, les fonds publics détournés, font du mal à nos États. Ces fonds auraient pu être servis à développer des infrastructures hospitalières, éducative et équiper toutes les infrastructures permettant aux populations de mieux vivre. Mais le constat est que la corruption constitue un véritable problème de développement et c'est un mal profond pour nos États. Donc il s'agit pour nous, à travers ce concours, de permettre aux médias ou aux professionnels des médias de mettre l'emphase sur ce mal que constitue la corruption pour le développement de nos pays et comme je l'ai dit tantôt, en contribuant également à sensibiliser et à éveiller la conscience de nos concitoyens, de tout le monde, afin que ces actes de corruption puissent être réduits au maximum pour le bonheur des populations.
Alors justement, parlons du concours. Et comment ça va se dérouler?
Le concours?
Oui.
Okay. Le concours, il y a un règlement pour participer à ce concours. Un règlement qui est établi pour permettre aux personnes de médias qui désirent participer à ce concours. Et il y a les conditions qui sont définies, qui sont déclinées dans ce règlement de concours. Il suffit simplement de respecter ces conditions et vous êtes accepté à participer à ce concours. Peut-être qu'on en viendra davantage sur ces conditions de participation.
Tout concours. À fait. Je voudrais qu'on parle, bien sûr, alors des conditions. Qui peut participer à ce concours et aussi quelles sont les conditions qui régissent le concours?
Qui peut participer à ce concours, c'est tout professionnel de médias, qu'il soit de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'audiovisuel, qui exerce régulièrement dans un organe qui est reconnu par l'État. Vous conviendrez avec nous que, étant une institution de la République, nous ne pouvons pas nous permettre de travailler avec ceux-là qui ne sont pas juridiquement reconnus. Donc, il faut nécessairement que le professionnel de médias qui voudrait participer à ce concours exerce dans un média ou bien dans un organe régulièrement reconnu par l'État. La seconde condition pour participer à ce concours, il faut nécessairement respecter les règles d'éthique et de déontologie. En tant que professionnel de médias, il y a un cadre juridique et réglementaire qui encadre l'exercice du métier. Et donc, il faut respecter l'ensemble de ces conditions-là également pour participer à ce concours.
D'accord. Oui, oui mais Fabrice, c'est vrai que nous avons connu l'OTM avec l'OTR pour le civisme fiscal. Et c'est un concours également pour sensibiliser les populations sur le civisme fiscal. Mais aujourd'hui, vous êtes en collaboration avec la APLUSIA. Qu'est-ce qui motive justement cette collaboration?
Oui, je crois que tout à l'heure, nous avons compris que le concours qui est lancé par la APLUSIA, qui est à sa première édition, le concours est ouvert aux médias. Et donc, naturellement, puisqu'il s'agit des médias, la cible, ce sont les médias. C'est la raison pour laquelle la APLUSIA a bien voulu s'appuyer sur la FETIERE, qui est l'Observatoire Togolais des médias, pour l'appuyer un peu en termes d'expérience, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, par rapport à ces initiatives-là, dont l'objectif principal, c'est pas forcément les prix tout de suite, mais c'est d'amener les professionnels des médias également à contribuer de par leur travail au développement de notre pays. La sensibilisation sur les questions liées à la corruption, aux infractions assimilées, je crois que c'est une thématique intéressante. Et la APLUSIA, depuis quelques années, a compris quand même qu'elle ne peut pas mener ce combat-là en se passant des médias. La raison pour laquelle, comme vous pouvez le constater, il y a eu plusieurs séances de formation à l'intention des professionnels des médias pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on appelle la corruption, les enjeux de la corruption et les impacts que cela a sur le développement de notre pays. Et donc, après toute cette série de formations, la APLUSIA a voulu aller encore un peu plus loin en initiant ce concours-là pour d'abord accentuer cette sensibilisation qui nous revient à nous les médias, puisque ça fait partie un peu du rôle des médias, sensibiliser et éduquer. Et ensuite, pourquoi pas, pour ceux qui voudraient bien s'intéresser à la chose, pourquoi ne pas récompenser ceux qui vont s'intéresser? Je crois que c'est un peu l'objectif de ce concours-là auquel nous sommes associés. C'est la APLUSIA qui organise et nous sommes là juste pour apporter un appui dans l'organisation donc de ce concours.
Alors Fabrice, concrètement, qu'est-ce qui représente votre collaboration ou l'appui que vous allez apporter à cette organisation?
Oui, je crois que la plus à ces activités qui prennent en compte les médias, mais pas seulement les médias. Et donc nous, notre présence en tant qu'OTM dans ce comité d'organisation, c'est d'abord motiver les confrères à participer à ce concours que nous trouvons très intéressant, puisque c'est des sujets de développement. En fait, au départ, l'idée d'amener les journalistes sur ces terrains-là répondait à une critique qui revenait très souvent, où on disait que les journalistes ne s'intéressaient qu'aux sujets politiques et autres. Alors, donc, il fallait quand même amener des gens à aborder des sujets qui contribuent au développement du pays. Et donc, ce concours-là entre dans ce cadre-là. Et notre contribution, comme je le dis, c'est d'aider à mobiliser les médias et à leur expliquer un peu le contenu de ce concours-là qui reste technique puisque c'est quelque chose qui est ouvert aux médias. Et donc, je crois qu'il faut, c'est l'occasion quand même de saluer la Aplusia parce que quand vous parcourez quand même les conditions de participation, ce n'est pas sorcier, hein, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de produire des articles, qu'on soit dans la presse écrite, des magazines, des productions en audiovisuel, et puis des articles également au niveau de la presse en ligne. Donc, les quatre types de médias qui existent, à rappeler qu'aujourd'hui, au niveau des médias en ligne, il y a les web télé, les web radio qui sont reversés au niveau des deux médias audiovisuels. Mais ce qui est aussi intéressant, comme je le disais, au-delà de l'objectif de ce concours qui est de sensibiliser les populations à travers les productions médiatiques, il y a aussi ce prix-là pour récompenser les meilleurs naturellement. Et là, plus il y a mis quand même des prix très intéressants qui, à mon avis, constituent en quelque sorte un respect pour le travail fait par la presse togolaise. Le premier prix dans toutes les catégories, c'est 1 million de francs CFA, que ce soit en presse écrite, radio, presse en ligne ou télé. Et puis 500 000 francs CFA pour ceux qui viendront en deuxième position. Il y aura aussi des trophées pour les premiers et puis des attestations de participation pour les lauréats. Et donc je crois que ce prix-là, il faut quand même reconnaître que c'est une manière quand même pour l'institution de respecter le travail de la presse, parce que vous êtes journaliste, je le suis, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous inviter, ils vous donnent un boulot, ils vous donnent 5000 francs comme déplacement et ils s'attendent à ce que vous l'affichez à votre une, ils s'attendent à ce que dans le journal parlé, au lieu de peut-être 30 secondes de parole que vous lui donnez, ils s'attendent à parler plus d'une minute parce qu'il vous a donné 5000 francs CFA. Je crois que on a toujours regretté cette situation où on a l'impression qu'on ne valorise pas le travail des journalistes. Et je crois que les prix par rapport à ce concours, au-delà de la cagnotte, moi je crois que la leçon qu'il faut tirer à travers ce prix-là, c'est qu'on respecte le travail des journalistes. Parce que quand vous êtes prêt à dire que celui qui sera meilleur dans l'écriture d'un papier journalistique a 1 million de francs CFA, je crois que quelque part vous comprenez que on ne se lève pas un matin comme ça pour produire. C'est pas si simple à faire. C'est pour cela que vous valorisez ça à travers le prix qui a été mis. Et pour ça, je tire chapeau à la Aplusia pour cette considération faite à la presse togolaise.
D'accord. Docteur Talaki, la date limite hein, du dépôt de dossier, c'est quand?
La date limite de dépôt de dossier est fixée au 29 novembre.
Au 29 novembre. À 17h. 29 novembre à 17h. D'accord. C'est vrai que ce reproche vous a été toujours fait hein, par certains dans la société concernant surtout la Aplusia, le fonctionnement de la Aplusia. Donc on pense que, allez, quand on prend des concours aujourd'hui, concours des médias, concours de la joute verbale et tout ce que vous organisez sur le terrain, des marches et justement pour lutter contre la corruption, donc on pense que c'est du folklore. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je pense que ce n'est pas du folklore, hein. Ce n'est pas du folklore. Au contraire, je pense que en organisant ces genres d'activités, c'est pour permettre à l'ensemble de la population de prendre conscience des maux dont nous vivons dans notre pays. Il faut également prendre en compte cet élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter, je prends l'exemple de la, on ne peut pas lutter contre la corruption en restant dans les quatre murs. C'est pas possible. Il faut être sur le terrain. Il faut intensifier les actions de sensibilisation, de conscientisation, d'éducation, d'information. Donc c'est à ce prix que nous pouvons conscientiser les populations. C'est à ce prix que nous pouvons changer leur comportement. Parce qu'en réalité, la question de corruption est une question de comportement. Il faudrait que nous arrivions à changer cette façon de voir les choses. Il faudrait que nous arrivions à changer la perception que nous avons des choses. Parce que le bien public, il reste toujours le bien public. C'est pour tout le monde, c'est pour toute la collectivité. Ce n'est pas seulement quelques individus, quelques personnes qui vont essayer de s'accaparer des biens de l'État. Parce que toute la population, tous les individus doivent bénéficier des richesses, des ressources de l'État. Et donc, il revient à chacun de nous de changer de comportement vis-à-vis de ces actes.
Et après la sensibilisation, il faut la sanction aussi.
Bien sûr.
Mais est-ce que la Aplusia a vraiment les outils nécessaires pour y arriver?
Oui, c'est vrai, c'est le reproche qui a été fait pendant longtemps à la Aplusia. Mais le président de l'Observatoire Togolais des médias venait de l'évoquer tout à l'heure. Parfois, c'est par méconnaissance. Parce que la loi qui crée Aplusha ne donne pas ses pouvoirs. Elle a Aplusha de pouvoir aller traquer les gens. Nous ne pouvons pas, en état actuel de notre droit, nous ne pouvons pas traquer les gens.
Le cadre juridique ne le permet pas.
Le cadre juridique ne nous permet pas d'aller traquer les gens. Vraiment, la difficulté que nous avons aujourd'hui, nous espérons qu'avec les réformes en cours, il y aura quand même des améliorations pour que les choses puissent avancer.
Là, vos détracteurs pensent que mais vous êtes en quelque sorte un soldat sans armes. Oui, mais il y a là une question.
Bon, est-ce que c'est une question, mais je vais me prononcer comme je le peux. D'abord, dire un sincère merci à la Plusia, comme l'ont expliqué le docteur et puis le président de l'Observatoire Togolais des médias. Vous savez, c'est une considération à l'endroit des médias. Certes, moi, je saisis cette opportunité pour exprimer nos reconnaissances à toutes ces structures publiques, parapubliques, ces établissements, et qui accordent de l'importance aux médias et qui ont des partenariats qui fonctionnent, qui travaillent en collaboration avec les partenariats. J'estime que c'est une façon pour la Plusia de traiter, de tisser un partenariat avec les médias, puisque d'autres conventionnellement l'ont fait. Mais ici, la Plusia mise plus sur l'excellence, c'est-à-dire que elle creuse, elle cherche les meilleurs pour les primer. Les autres que je vais me permettre de citer, c'est franchement, c'est et pour encourager d'autres structures qui ne l'ont pas encore fait, de savoir que le rôle joué par les médias, c'est un rôle public, un rôle très incontournable. Si vous fonctionnez en tant que structure publique, parapublique ou privée, sans l'intervention des médias, c'est qu'il y a un souci. Donc ici, je voudrais saluer le partenariat entre l'OTR et les médias, le partenariat entre la SAFER et les médias, le partenariat entre de moi à les citer. Ils sont nombreux, la Lonato, les médias et tous. Il faut que... Bon, je me dis... Comme c'est le président de l'OTM même qui estime que ce n'est pas encore nombreux, nous l'acceptons puisque ces structures sont assez nombreuses. Il faut qu'elles fonctionnent avec les médias pour que le travail soit un travail de visibilité, mais encore un travail d'objectivité. C'est très important, mais inviter tous les confrères qui sont motivés à concourir pour les meilleures productions médiatiques et sensibiliser, lutter contre la corruption. Je dis même que c'est le premier fléau contre le développement aujourd'hui, au Togo particulièrement. Je ne connais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais j'avoue quand même que au regard des chiffres que la Aplusha nous sort chaque jour, j'estime que c'est un phénomène vraiment, si on ne lutte pas contre, on restera là où nous sommes.
D'accord, Jacques.
Moi, je voulais tout juste poser la question au président de l'OTM, au docteur, sur la finalité de ce concours. Quel sort réservé à ce concours après la proclamation des résultats?
Merci. Oui, docteur Talaki.
Merci beaucoup, monsieur Yakouti. Après la proclamation des résultats, monsieur le président de l'Observatoire Togolais l'a signifié tout à l'heure, il y aura une cérémonie solennelle de remise des prix aux différents lauréats selon les catégories et qui ont été identifiées dans le cadre de ce concours. Mais aussi, à la fin, nous comptons utiliser ces œuvres médiatiques pour nos actions de sensibilisation et de conscientisation. Voilà l'objet, la finalité de ce concours. À la fin, tous ceux qui auront produit des choses, les œuvres, on va utiliser l'ensemble de ces œuvres pour nos actions de sensibilisation et de conscientisation. D'accord. Voilà la finalité de ce concours.
D'accord. Gosson?
Oui, moi, je voudrais prendre le compte-pied de tout ce qui se dit ici. Par rapport à l'organisation de ce concours, j'estime que la Aplusha pourrait être en train de faire un clin d'œil aux autorités afin que plus de pouvoir lui soit conféré. Parce que dans notre constitution, vous lirez qu'il existe la haute cour de justice.
La quatrième, l'ancienne.
Il faut, il y avait une constitution. Dans la constitution, il y avait la création de la haute cour de justice. Mais on s'est arrangé pour que cette institution ne naisse jamais, qu'elle demeure. Elle n'est même pas demeurée dans l'état embryonnaire. Elle n'est jamais née. Donc,
ce faisant, avec ce concours et les résultats qui pourront en être issus, ça pourrait toucher le cœur des décideurs afin que la APUCIA comme la ALCIA au Niger ait plus de pouvoir, parce que quand les affaires tombent sur le bureau au parquet, le parquet est tenu de suivre les instructions que donne la hiérarchie, qu'est le ministre de la Justice. Mais tant que l'instruction ne sera pas donnée, les dossiers vont s'empiler au parquet sans jamais connaître de suite. Je ne vais pas me mettre à lister les dossiers que les médias ont sortis, mais qui n'ont jamais connu de suite. Donc, personnellement, la APUCIA est à encourager, mais elle le sera encore le jour où on entendra dire que, à partir de ce jour, tout acte de corruption sera poursuivi par la APUCIA jusqu'à son aboutissement.
D'accord. Docteur Talaki, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin.
Merci beaucoup. Je voudrais rassurer M. Godson que nous avons tous espoir parce que les réformes en cours. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle institution, la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité à la vie publique et la lutte contre la corruption, qui est prévue dans la nouvelle constitution en son article 82. Et nous espérons que dans l'opérationnalisation de cette institution, toutes les mesures seront prises pour doter plus de pouvoir à l'institution. Et nous sommes convaincus que les réformes qui ont été entamées depuis des années par le chef de l'État, ils vont continuer à opérer des réformes pour donner plus de pouvoir à l'institution de lutte contre la corruption. Et nous avons bon espoir.
D'accord.
Mon mot de fin, je dirais que la lutte contre la corruption n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Nous devons tous contribuer à la lutte contre la corruption. Que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les médias, que ce soit les populations dans leur ensemble, nous devons tous participer à la lutte. Sans quoi, le pari de la lutte contre la corruption ne sera pas gagné. Pour gagner la lutte contre la corruption, c'est une action collective et concertée qui doit être menée afin que nous puissions venir à bout de ce phénomène qui décime ou bien déstructure nos économies et affaisse les ressorts économiques de nos pays.
D'accord.
Voilà le mot de fin que
merci je vous dis. Beaucoup, docteur Talaki. Fabrice Pétézi.
Non, pour finir, je crois que la balle est dans le camp des professionnels des médias. C'est lancé. Il ne nous reste qu'à démontrer, ou du moins ça, à faire la démonstration selon laquelle la corruption a un impact sur le développement. Et cette démonstration doit être faite à travers juste les productions médiatiques, comme nous savons le faire tout le temps. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de participation pour que la APUCIA ne ramène pas ses millions dans ses caisses.
D'accord. Merci beaucoup, Fabrice Pétézi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Merci d'être passé dans cette émission. Docteur Talaki Tioué, et vous êtes directeur de la prévention de la APUCIA et aussi président du comité d'organisation du concours des meilleures productions médiatiques sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, sans transition, chers confrères, je ne sais pas si c'est aussi de la corruption, mais je voudrais quand même qu'on parle alors de ce phénomène qui sévit au niveau même d'ailleurs du service de la nationalité. C'est vrai que depuis un temps, il y a des gens quand même qui se sont érigés en gardiens alors des motos à la devanture même d'ailleurs de ce service. Et c'est vrai, tout au début, ce sont des gens qui percevaient pratiquement 100 francs, mais à un moment donné, on retrouve quand même qu'ils augmentent alors le prix. Et le journal, le correcteur en a parlé ce matin, le journal est revenu bien sûr sur le sujet, et le journal titre à sa une bien sûr, service de nationalité parking moto à 200 francs CFA, à qui profite ce crime? Déjà, c'est en quelque sorte quelque chose que des citoyens ont organisé ou citoyens organisent pour recevoir de l'argent et garder aussi les motos des gens. Finalement, est-ce que c'est une forme de corruption?
Bon, qu'est-ce que il faut dire corruption, abus, il faut dire quoi? On abuse du petit citoyen? Mais les spécialistes nous diront clairement est-ce qu'il s'agit de la corruption. À mon avis, non. Mais c'est un abus. C'est un abus parce qu'on ne peut pas comprendre le pourquoi stationner son engin à deux roues au parking d'un service public et ressortir payer 200 francs. On ne connaît pas, on ne maîtrisera même pas la destination de ces fonds, à moins que qu'il soit délivré des reçus de l'OTR au propriétaire d'engin, là on comprendrait. Mais faire payer 200 francs pour un engin de deux roues pour être allé au service de délivrance de la nationalité, j'estime que c'est de trop, parce que nous connaissons plusieurs services qui se sont déployés à aménager des espaces. Lorsque vous arrivez, vous stationnez tranquillement votre engin sous la sécurité de ces services et au retour, vous reprenez votre engin tranquillement et vous repartez. On ne connaît pas cette histoire de taxes. Attends, combien de fois, quand vous allez à l'OTR pour payer vos taxes ou pour faire ceci, est-ce qu'on vous prend les 100 francs, les 200 francs là-bas? Non, on ne m'a jamais pris un franc là-bas. Lorsque je vais à Togokom, par exemple, je stationne ma voiture ou ma moto. À la sortie, on ne m'a jamais demandé 100 francs. Lorsque je me rends dans tous ces services-là, mais je ne sais pas pourquoi, si le cas est avéré, je pense quand même que c'est un abus, malgré la situation actuelle que vit le Togolais et dont tout le monde en parle. J'estime quand même que c'est des trous et il faudrait, je pense, pour le journal, c'est une façon d'attirer l'attention de l'autorité de ces services-là, à avoir un œil et à dire à ces responsables à ces responsables qui prennent les 200 francs que non, que rien n'a été institué dans ce sens. Mais si c'est le service de nationalité qui a instauré cela, il va falloir qu'on nous explique clairement. Cet endroit, il est un endroit public et en réalité, nos engins devraient bénéficier d'une protection publique. Et à la sortie, tu pars tranquillement. Mais si c'est le service même qui l'a instauré, il faut délivrer maintenant un reçu conforme, un reçu non corruptible, un reçu pour nous prouver que ces fonds-là iront dans les caisses de l'État, ces fonds-là iront dans le trésor public. Mais j'en doute parce que de tout ce que nous connaissons comme règlement, loi, de ce pays, il n'est nulle part écrit qu'il faut instaurer un parking à la devanture ou bien au sein, à l'enceinte des services publics pour escroquer ou bien prendre de l'argent aux pauvres citoyens.
Jacques, est-ce que vous estimez aussi que c'est un abus? Et si c'est vrai que c'est un abus, à qui profite vraiment cet abus?
Pascal, vous avez fait une fois le déplacement au seuil de nationalité?
Si.
Vous avez vu le nombre?
Oui.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens fassent quoi? Si il n'y a pas un encadrement au niveau de... Je ne suis pas en train de cautionner ceux qui sont en train de percevoir les 200-200. Je ne suis pas en train de leur cautionner. Mais quand vous voyez le nombre de motos qui sont souvent garées là-bas, il faut reconnaître qu'il faudrait quand même que les gens puissent protéger, garder ces motos. Ouais, c'est le nombre est trop. Le nombre est trop pléthorique. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions plutôt repenser comment faire pour aider ces compatriotes-là qui cherchent à faire leur nationalité. Il faut poser le débat dans ce sens. Parce que si vous posez le débat, le fait qu'on perçoit les 200-200 sur les motos, qu'est-ce qui a poussé les gens à percevoir les 200-200? Il a cité tout à l'heure l'OTR. Il a cité par exemple Togokom, qu'il n'y a pas ces abus là-bas. Mais c'est parce que quelque part, il y a une fluidité. Lorsque vous allez pour régler, par exemple, les factures, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez au seuil de nationalité, mais ça, c'est un autre monde là-bas. Il y en a trop. Il y a trop de demandes. Je crois qu'il faudrait plutôt demander au ministère de la Justice d'essayer de voir comment ils vont décentraliser ces services-là. Parce que nos compatriotes souffrent aujourd'hui pour avoir la nationalité. La semaine surpassée, on nous avait parlé de la prison civile de Lomé, où on ne paie plus. Mais Pascal, allez voir ce qui se passe là-bas pour voir votre détenu, mais vous êtes obligé de payer toute une queue avant d'avoir accès. Non, c'est pour vous dire que quelque part, il y a des choses qu'on dit, mais quand on veut rentrer dans le réel, c'est également un autre problème. Je le répète, je ne cautionne pas ceux qui prennent les 200-200, mais il faut revoir effectivement comment aider nos compatriotes, comment aider effectivement nos frères à obtenir leur nationalité. Parce que si les motos qui sont là-bas, Pascal, vous-même, vous connaissez, c'est à côté de la mer et qui ceux qui ont fait ce quartier connaissent un peu ce qui se passe là-bas. Si on laisse ces motos à l'air libre, les gens vont venir également dérober ces motos. Mais moi, je préfère sortir trouver ma moto en toute sécurité et peut-être payer que de sortir ne pas retrouver ma moto. S'il faut que il faut demander peut-être au service de nationalité de déployer les policiers, déployer les gendarmes pour garder là-bas, là, ça c'est une autre chose. Mais si les gendarmes n'ont pas le temps de pouvoir le faire, les policiers n'ont pas le temps de le faire, mais les compatriotes qui se constituent pour pouvoir garder vos motos, mais je crois que ça devait être une discussion entre, par exemple, celui qui a gardé sa moto et celui qui garde la moto. Donc je crois que aujourd'hui, demandons plutôt au ministère de la Justice de voir comment aider nos compatriotes à rentrer en possession de leur nationalité.
D'accord. Oui, Gosson.
Oui,
Pascal. Oui, la situation se présente ainsi. Ce n'est pas seulement au service de la nationalité. Il y a d'autres services également où, quand vous voulez vous garer, même d'ailleurs, votre moto, votre engin, et quand vous revenez, on vous perçoit même d'ailleurs soit 200. Il y a certains même d'ailleurs qui augmentent cela même à 300. Et c'est au gré même d'ailleurs des humeurs. Et des fois même d'ailleurs, des fois ça crie. Des disputes entre le citoyen qui vient faire qui vient demander le service et aussi la personne qui se dit gardien de ses engins.
Pas de surenchère. Pour les motos, le top c'est 200. L'idéal c'est 100 francs. Je suis client. C'est pas seulement au service des nationalités, c'est tout autour du tribunal. Parce que on vous interdit désormais de rentrer votre moto au sein du tribunal. Et pour ce faire, on a réaménagé les alentours du tribunal qui va jusqu'au niveau du service des nationalités. Et parlant de reçu, c'est vrai que c'est un reçu dûment rempli qui vous est remis. Maintenant, pour les 200, je dirais que c'est trop, cette augmentation. Parce que, de par le passé, c'était 100 francs. Qu'est-ce qui peut justifier...
Même 50 francs.
Qu'est-ce qui peut justifier que l'augmentation soit portée à 100%? Ce n'est pas normal. Je vais au-delà du tribunal pour parler des mairies. Si nous voulons vraiment parler de désengorgement des voies, d'embellissement des rues, il serait temps que les parkings qui sont en train d'être érigés sur les terres pleines sans trop soient utilisés. Parce que les soirs, souvent, pour cause d'ouverture de bar, les clients gardent les motos parfois de façon anarchique au bord des voies, ce qui peut être source d'accidents. Et mais juste à côté, il y a des aires de stationnement qui sont, quoi qu'on dise, un peu aménagées. Et maintenant, il faudrait qu'à un certain moment, on oblige les clients à y garer leur moto. Mais si la taxation doit être de 200 francs, parce qu'à de toi à moi, reconnaissons que c'est trop. Pour les motos, 100 francs, c'est l'idéal. Et encore, il faudrait que, par exemple, au service des nationalités ou du tribunal, il y a des gens qui y viennent deux ou trois fois dans la journée. Donc, il faudrait qu'il y ait que le reçu qu'on leur délivre leur permette de revenir garer sans ne plus payer, du moment que c'est toujours dans la même journée. Donc, parler de corruption, non. D'abus, oui, parce qu'il n'y a pas eu de communication en amont. On ne peut pas venir imposer ça de cette façon. C'est comme si on allait passer de 100 francs, il pouvait dire ça passe désormais à 500. Non, c'est des citoyens qu'on dirige dans le pays, on n'est pas des bêtes. Donc il faut une communication. Sans cela, vous souffrez qu'il y ait des soupçons de corruption autour de cette augmentation-là.
D'accord. Alors, Didier nous a rejoint. Didier Assoba, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs de Canal FM. Bonjour à nos amis de Apulsia qui ont fait donner l'impression de ce que je venais d'arriver. Alors que Alors que j'étais là depuis.
Voilà. Je sais pas. Alors, disons, nous sommes en train de parler de ce sujet qui touche pratiquement le quotidien des citoyens togolais que nous sommes. Et dans des services, quand vous allez vous stationner ou vous garer votre engin, automatiquement, on vous perçoit quelque chose. Mais au même moment, c'est nous qui disons quand même que la vie devient de plus en plus chère.
Oui, je réfléchis à la situation et je me demande, est-ce que le payer pour garer nos engins au niveau des services publics, est-ce que ça fait partie même de la délivrance des services publics? Ça reste la question que nous devons nous poser. Parce que ce n'est pas systématique de toute façon. Il y a beaucoup de services publics où on va aujourd'hui et on gare tranquillement, on se fait livrer le service public et on part sans payer le stationnement et le parking. Si c'est pas systématique et que dans des services publics, dans d'autres services publics, il faille payer, je pense que là, il y a un souci. Si c'est pas institué, si c'est pas quelque chose qui est décidé de façon officielle et que je vais par exemple à une mairie, dis n'importe quoi, on est dans Golf 4 ici, je vais à la mairie Golf 4 pour me faire légaliser quelques papiers. On ne me prend pas de frais pour le stationnement de mon engin. Et que je dis n'importe quoi, je ne dis pas que c'est le cas. Je vais à la mairie de Tocle-Compé, par exemple. On me dit de payer parce que j'ai dû stationner quelque part. Là, je pense que ça fait deux poids, deux mesures et c'est pas correct. Donc, puisque ça devient un sujet de préoccupation pour tout le monde, il faut peut-être que le ministre chargé des services publics puisse véritablement situer l'opinion là-dessus. Est-ce que quand on va au service de nationalité, qui est censé être un service public, est-ce qu'il faut payer pour le stationnement? Parce que je pense que si le citoyen vient là, l'accueil, le stationnement fait partie de l'accueil du citoyen normalement au niveau des services publics. Donc, est-ce que l'accueil là, est-ce qu'on paye? C'est des questions que nous devons nous poser, on doit continuer à mûrir les réflexions. Comme Jacques le disait, spécialement au niveau des services au niveau du service de la nationalité, ce qu'on peut faire justement, c'est de tout faire pour que tous les citoyens ne soient pas obligés de se diriger systématiquement vers là. Dès lors qu'il y a une influence systématique là-bas, pratiquement tous les jours, ou du moins les jours de dépôt, mais oui, l'idée va germer rapidement chez quelqu'un de pouvoir des fois organiser des citoyens. Ouais. Oui, mais souvent c'est organisé par des gens en interne qu'il faut faire le service par des privés. Et après, bon voilà, on se partage ou on paye les privés qui viennent gérer. Et bien oui, le reste de la manne, ça vient, ça passe derrière, ça vient à celui qui organise là-bas. Donc il faut justement qu'on trouve un moyen notamment en ce qui concerne le service de nationalité, de décentraliser. Il y a des efforts qui sont déjà en cours, mais il faut continuer dans cette dynamique-là et arriver dans la logique où, comme on fait dans d'autres pays, où le certificat de nationalité est même délivré par des mairies. Oui, si on peut délivrer par la mairie de Tône 1 quelque part là-bas, est-ce que notre ami a besoin de quitter Dapao pour venir stationner quelque part ici parce qu'il y aurait un petit souci avec sa nationalité? Donc je crois que il y a des efforts qui doivent être continués dans le sens de la décentralisation réelle pour refléter la vision même annoncée par les autorités pour éviter justement que des phénomènes qu'on peut assimiler à des raquettes, parce que ce qu'il transparaît, c'est un peu comme la raquette. Parce que si je viens stationner et qu'on me prend de l'argent, je me fais racketter un peu quelque part, alors qu'ailleurs, le même stationnement est gratuit. Donc, c'est la question qu'il faut se poser.
D'accord. Oui, Uriel, vous voulez dire quelque chose?
Non, c'est un parc qu'on peut assimiler comme de la raquette. C'est du racketage. C'est du racketage parce que nous discutons sur un frais qui n'a pas de nom. Est-ce que vous connaissez le nom de ces frais qu'on perçoit?
Et la destination?
Non, cherchons le nom d'ailleurs. Non. Comment on appelle ces frais? Pour avoir stationné son engin.
C'est le frais de stationnement.
Non, ça n'existe nulle part dans notre système. Ça n'existe nulle part. Non, il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes.
On est sincère.
On n'est pas sincère lorsqu'on dit frais de stationnement, ça n'existe nulle part. Moi-même, ça dit que ça, des fois, il faut aller au-delà de ce qui se fait. Vous allez dans un service public, on vous perçoit ses frais. Wilson venait de dire que 100 francs, c'est l'idéal. Et que 200, c'est trop. Ce n'est écrit nulle part. C'est de l'abus.
Ça n'existe nulle part. Alors, quand on dit l'État protège les biens et les personnes, nous sommes les personnes, nos engins, ce sont nos biens. Et je sais que l'État fait chaque jour des efforts pour nous protéger et pour protéger nos engins. Donc, cette perception, ça veut dire qu'elle a été orchestrée de toutes pièces par des individus, comme Didier l'a expliqué, qui se gèrent à la suite. Parce que ça n'a pas... J'ai dit, ces frères n'ont pas de nom. Ça n'existe nulle part. Donc, on peut se mettre ici durant trois jours pour en parler. Okay. Ces frères n'auront pas de nom.
D'accord. Oui, moi, je voulais un peu rebondir par rapport à ce que Godson disait, que si on va, par exemple, trois fois, quatre fois, on ne va pas payer. C'est-à-dire que donc, lorsqu'on paye une fois, dans la journée, on ne paie plus. Mais je voulais lui dire, Godson, quand tu vas à l'aéroport, tu sors, tu reviens, tu gardes, tu sors, tu reviens. Tu as oublié de payer.
C'est différent.
Non, c'est pas différent. Tu payes. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai dit, Pascal, soyons réalistes. C'est-à-dire qu'on peut demander de diminuer les frais. 200, peut-être, c'est trop. Mais pour la sécurité de nos engins, il faut quand même que quelqu'un puisse les garder.
Là, il faut formaliser.
Je
ne
sais pas si vous comprenez. Il faut le faire.
Justement,
c'est pour ça que je dis. Formaliser dans ce sens, c'est que il faut demander au ministère de la Justice, les agents de sécurité qui sont là-bas, d'essayer de voir comment ils vont formaliser la chose. Parce que, sûrement, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'agents de sécurité pour contrôler, pour garder ces motos. C'est pourquoi peut-être certains se sont improvisés de pouvoir garder les motos.
Ils ne sont pas,
c'est pas si vous comprenez. Donc, il faudrait, comme c'est l'alerte qui est en train d'être donnée, que le ministère de la Justice, maintenant, s'organise pour voir ce qu'il faut faire. Parce que quand vous dites que non, il ne faut pas payer, je vous dis, lorsque vous gardez votre engin, entre-temps, vous vous rappelez ce qui se passait au niveau du châssis sur Banis Olympio. Dès que vous garez votre moto, on vient voler. C'est parce que vous avez vu ce qui se passe là-bas actuellement. Vous avez vu comment on a barricadé cette caisse. Dès que vous amenez votre moto, là, il n'y a plus de soucis. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le ministère de la Justice, comme on parle du tribunal, on parle également du seuil de nationalité, essaie de voir comment aider effectivement nos compatriotes.
D'accord, ok. Nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à la politique. À la politique, on s'intéresse à la décentralisation. La décentralisation, c'est la semaine dernière. Il y a le gouvernement qui était en conseil des ministres où les dispositions concernant le Sénat a été prise alors de justement au cours alors de cette rencontre au cours de ce conseil des ministres. Il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet ce matin. Le journal a écrit la cinquième et ses avatars. À quoi sert le Sénat dans un pays où tout manque? C'est une question alors du journal. Alors, Godson, quand on prend ce sujet aujourd'hui, on prend des dispositions également, même d'ailleurs le nombre ou l'effectif alors des sénateurs, tout a été décidé au Conseil des ministres. Ça veut dire que pas à pas, nous tendons vers la 5e République.
Tu as observé mon silence.
Justement, je l'ai observé.
Normalement, ça devrait valoir 1000 mots. Je resterai fidèle et droit dans mes bottes. Notre pays pouvait se dire pour plus de recettes et moins de dépenses, nous décidons que ce soit 70 députés et pas de Sénat. 50 conseillers régionaux. Le pays allait quand même fonctionner. Ça allait quand même fonctionner. Mais c'est le nom pléthorique qui me fait penser que derrière, il n'y a pas du sérieux. Qui plus est, le gouvernement, c'est pratiquement un parti. L'Assemblée nationale, c'est le même parti. Le Sénat, c'est toujours le même parti. Au final, le Sénat là, va servir à quoi? Si ce n'est pas pour contrebalancer l'Assemblée nationale. Vous voyez les membres du Sénat d'un parti contrebalancer ceux de l'Assemblée nationale du même parti? Non. Tout ça ressemble de plus en plus à du folklore. C'est comme j'ai mon pain, je t'en donne un peu, toi aussi viens manger, toi aussi viens boire un peu. C'est du lait qu'on est en train de distribuer. Je le dis, je le répète. Le Sénat actuellement, en l'état actuel,
de la situation sociale de notre pays, on pouvait très bien s'en passer sans que le soleil arrête de se lever tous les matins.
D'accord. Didier, est-ce que vous avez aussi l'impression que nous n'avons pas besoin du Sénat actuellement?
Non, que moi je dise qu'on en a besoin ou qu'on n'en a pas besoin, ça va changer quoi la donne. Mais ce que Gosson dit n'est pas faux. Mais on va attendre voir ceux qui ont conçu la 5e République et l'allure qu'ils veulent donner, les couleurs qu'ils veulent donner justement à cette République-là. On va attendre véritablement qu'ils mettent du sable dans les moules pour qu'on voit réellement à quoi ressemblera le Sénat, puisqu'on vient de prendre des dispositions concernant le Sénat. On va voir à quoi ressemblera le Sénat, son fonctionnement, puisqu'on l'a jamais eu, même dans l'histoire du Togo, on n'a jamais eu un Sénat. On ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas comment ça fonctionne. On va entendre voir ce que ça donnera. Moi personnellement, ailleurs on dit que les sénateurs sont des représentants des territoires et que les députés sont des représentants du peuple. Et quand je pars un peu sur les critères de découpage ou de redécoupage ou tout ce que vous voulez, chez nous ici, on se base beaucoup plus sur les territoires pour faire beaucoup plus. Hein. On a cette proportion importante, on dit telle préfecture, telle contrée est plus vaste et on fait les ajustements pour faire le découpage. Donc, si déjà on prend en compte les territoires dans le découpage pour avoir le nombre de députés, bon voilà, est-ce qu'on a autant besoin du Sénat? Mais puisqu'on a une constitution qui institue le Sénat, comme je dis, on va attendre voir. Peut-être on fera l'expérience voir une fois, puisque même dans la constitution qu'on a gommée, la quatrième, il était prévu un Sénat qui n'a jamais été opérationnalisé. Donc, pour une fois qu'on veut opérationnaliser, attendons de voir ce que ça va donner et peut-être qu'on va tirer les leçons in fine. Si pour la bonne marche du Togo, la bonne gouvernance du Togo, il faille continuer à garder le Sénat. Mais il faut qu'on l'expérimente d'abord, puisque que nous on dise oui ou non, les tenants ont déjà pris les dispositions pour que le Sénat soit une réalité. Donc, essayons d'aller voir le fonctionnement du Sénat qui sera peut-être opérationnel d'ici quelques mois. On va voir si ça apporte quelque chose au fonctionnement et au développement du pays, si ça change quelque chose au quotidien togolais et si ça donne, ça donne un peu de l'huile dans le moteur de fonctionnement du Togo et on appréciera chacun.
D'accord. C'est vrai que donc on pense que ce sont des institutions quand même qui sont budgétivores et que quand on parle de la gouvernance actuelle, on n'en a pas besoin en tant que telle. Est-ce que vous avez aussi l'impression?
Non, vous savez, il y a trop de contradictions. Le Sénat est une institution qui fait partie de la constitution de la 5e République ou pas? Si cette institution fait partie de la nouvelle constitution, alors je me dis que je n'ai pas raison de refuser sa mise en place. On comprend, les gens disent ça bouffe de l'argent. On comprend, dans la constitution précédente, il y avait le Sénat qui était prévu, mais on ne l'a jamais expérimenté. Mais nous allons plutôt encourager ce qui est bien, ce qui expérimente le bon sens. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter, qu'il n'y ait pas trop de sénateurs, étant donné qu'on parle de budgétivore, ça veut dire qu'il faut minimiser le nombre de sénateurs afin de permettre au pays de continuer de fonctionner. Les pays qui ont expérimenté le Sénat savent ce que c'est et on peut aller se ressourcer auprès d'eux et adapter à nos réalités. Je ne sais pas, aux États-Unis, c'est 100 sénateurs ou c'est combien, quelque chose comme ça. Mais au Togo, nous ne sommes que peu. Le pays est très petit. On a moins de préfectures, moins de régions. Si nous n'avons pas refusé la mise en place des gouverneurs, nous n'avons pas refusé la mise en place des maires et tout ça. Bon, et avant même la mise en place du Sénat, nous nous exprimons contre. Je pense qu'il y a une contradiction en la matière.
Nous avons le choix.
On n'a même pas le choix en réalité. On n'a même pas le choix en réalité parce que si la constitution de la 5e République prend corps sans le Sénat, nous serons même les premiers à critiquer.
pourquoi cette institution devrait faire partie de la nouvelle constitution et on prend la marche sans le Sénat. Donc moi je serais même le premier à écrire là-dessus parce que je n'ai pas compris, si on peut m'expliquer et me convaincre. Alors je préfère qu'on l'expérimente, comme Didier l'a dit, qu'on l'expérimente et qu'on voit les tenants et les aboutissants pour voir s'il y a plus de conséquences négatives en termes de dépenses d'argent et tout. Le pays peut essayer d'adapter les choses à ses réalités. Le Togo, on connaît la limite de nos moyens. On ne va pas dire, par exemple, qu'un sénateur aille prendre 12 millions à la fin du mois. Donc, en fonction de nos réalités, il faut voir. On n'a pas obligé quelqu'un à devenir sénateur. Donc, si tu es prêt à jouer le rôle, voilà ton salaire, et ça je pense que c'est le rôle entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Ils n'ont qu'à décider selon le bon sens qu'est-ce qui peut arranger le pays. Ils n'ont qu'à le décider pour mettre en place le Sénat.
D'accord. Et on va... Jacques, selon nos réalités, la conjoncture même d'ailleurs aussi économique, nos réalités socio-économiques, alors finalement, est-ce que déjà tel que le proposait Gosson, est-ce qu'on ne peut pas se passer du Sénat?
Vous savez, les béabas en journalisme, on nous dit souvent le pourquoi, le comment et le quand, je crois.
Tout à fait. C'est
les trois.
Le où.
Voilà. Je crois que, vous savez, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on cherche en mettant en place toutes ces institutions? La finalité, c'est quoi? C'est ça la question. Quelle est la finalité? Et l'autre aspect également, par rapport à l'installation de ces institutions, c'est comment ces institutions-là seront gérées. À qui va profiter la gestion ou bien l'installation, l'instauration de ces institutions que nous avons? Tout le problème à ce niveau. On ne peut par exemple mettre sur pied tout ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure s'il y a par exemple une fluidité au niveau de la gestion de ces institutions où il ne peut pas avoir interférence. Parce que nous connaissons en Afrique, il y a toujours des interférences au niveau des institutions que nous installons. C'est ça le problème. S'il y avait par exemple une fluidité au niveau de la gestion de ces institutions, il n'y aurait aucun problème. Irène a dit tout à l'heure, quand vous prenez par exemple le nombre de Togolais que nous sommes, je crois que nous sommes à 8 millions de Togolais, nous sommes déjà à 113 députés. Vous voyez que c'est un peu trop.
179 conseils régionaux.
Et les maires. 117 maires. Et le gouverneur, il y a également le Sénat qui va s'ajouter. Vous voyez que c'est vraiment un poids économique pour le pays. Alors, au même moment, nous demandons d'essayer de voir comment, peut-être au niveau des dépenses, comment faire également pour amortir un peu les dépenses. Au même moment, nous créons encore des dépenses. Vous voyez, tout le débat à ce niveau. Donc je crois que l'important aujourd'hui pour nous les Togolais, il faudrait aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent et nous, en tant que population, nous puissions chercher effectivement ce qui nous concerne. Parce que quoi qu'on dise, Pascal, si aujourd'hui on instaure le Sénat, on a 113 députés, il y a les maires également qui sont là, les conseils régionaux et tout ça, vous voyez que ça, c'est un poids économique pour le pays. Et l'autre aspect, tout ce que nous sommes en train d'installer, est-ce que nous avons les infrastructures pour accueillir tout ce monde-là? Tout le débat à ce niveau. Aujourd'hui, quand vous prenez le gouverneur, nous avons appris que dans certaines localités, les préfets sont obligés de quitter leur bureau pour laisser la place au gouverneur. Vous voyez, donc c'est des choses, aujourd'hui, il faut quand même y réfléchir. C'est vrai, en les instituant, mais comment le fonctionnement, comment faire effectivement pour que les choses puissent avancer dans le sens où pour que la population soit effectivement satisfaite par rapport à ce
qu'on d'accord, merci beaucoup faire. Jacques. Oui, disiez.
Oui, toujours sur le Sénat, je pense que, comme Uriel le disait, dans la Constitution de la 5e République, son utilité à l'heure actuelle, c'est que si on veut mettre le Sénat rapidement en place, c'est parce que le Sénat participe à l'élection du président de la République. Ma foi, son utilité restera là-bas. Après, oui, ça va rester que ça pour notre Sénat à nous. Mais maintenant, est-ce qu'on veut réduire l'institution à ce seul rôle-là?
Voilà.
Bon, voilà la question. C'est pour ça que moi je dis, peut-être que ceux qui concevaient cette constitution de la 5e République pensaient que c'est quelque chose qui pouvait apporter du bien au Togo. Mais maintenant que déjà des avis expliquent que ça va plutôt créer beaucoup plus de dépenses que ça. Maintenant qu'on a greffé l'élection du président de la République à l'opérationnalisation du Sénat. Peut-être qu'après avoir mis en place ou après avoir élu notre prochain président de la République, qui sera président de la République, suivez mon regard, on pourra voir quel rôle on peut voir confier après tout au Sénat, parce que le vote des lois et tout ça restera toujours à l'Assemblée nationale. Et le Sénat, ça va juste avis, et que si le Sénat dit des choses, ça va être toujours à l'Assemblée nationale qu'on va corriger.
D'accord.
Pour le vote final.
Ok, alors je voudrais qu'on dise un mot sur l'élection ou le retour de Donald Trump alors au pouvoir. Et là, rapidement, Uriel, quelle leçon on peut tirer même d'ailleurs de ces élections?
Uriel n'a aucune leçon à nous donner parce qu'il avait dit que Kala ne passait pas, Trump ne passait
pas. Non,
c'est ce que tu nous avais dit.
Quelle leçon?
Toi, tu ne dois plus même pas parler.
Je ne suis pas là pour donner des leçons. Vous savez, je répète les propos de Didier la dernière fois. C'était mon souhait, mais ça n'a pas été exaucé. Qu'il soit élu Donald Trump ou Kamala Harris devrait être élu, ça ne change rien pour l'Afrique, le continent de merde. Ça ne change rien. Il est élu pour les États-Unis d'Amérique. Ça, il faut qu'on l'ait en tête. Il n'est pas élu, il n'est même pas élu pour l'Europe, ni pour l'Asie, ni pour encore moins l'Afrique. Donc, cette histoire-là, j'aurais même souhaité ces sujets de proximité que tu as devant toi et que tu feintes. Les inquisiteurs, élu, qu'est-ce que ça apporte au Togo? Qu'est-ce que ça apporte au Bénin? Non, il est élu pour les États-Unis d'Amérique.
Oui, d'accord, Jacques, tu vas dire ça.
Non, je crois que, vous savez, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que l'élection aux États-Unis, tout le monde s'y attendait. Et vous savez que presque le monde avait coupé son souffle avant ces élections. Aujourd'hui que l'élection a eu lieu, c'est vrai, comme il l'a dit, que Trump ne représente pas grand-chose pour l'Afrique, mais il faut reconnaître que l'élection de Trump va constituer aujourd'hui un tampon au niveau, effectivement, de la gestion de certains pays, et surtout les guerres que nous voyons un peu partout. Le monsieur va essayer quand même de temporiser un peu ces guerres-là et que la paix revienne dans certaines localités.
D'accord. Disait.
Oui, je pense fondamentalement aussi que moi, je l'avais déjà dit, vous connaissez ma position, Trump, ça va pas changer quelque chose dans le fonctionnement du Togo. Jacques disait en début d'émission que plusieurs Togolais sont devenus
des rappeurs.
Pour ne pas énerver Uriel qui disent que c'était pas tous les Togolais, mais beaucoup de Togolais sont devenus des rappeurs par rapport à la situation actuelle dans le pays qui est compliquée. Donc nous resterons rappeurs, même si le pays...
Donc tu fais partie des rappeurs.
Mais naturellement, même si le pays du rap, c'est le président, c'est Donald Trump maintenant. Mais maintenant, après, internationalement, ça va apporter quoi? Comme il a dit, peut-être, comme il commence déjà par dire, il va pas fournir des armes à l'Ukraine, il va pas soutenir l'Iran, il faut que Israël reste. Donc ça va être peut-être le bémol. Un peu temporiser les tensions qu'on a connues ces dernières années et qui ont fait que la vie est devenue tellement chère en Afrique ici, parce que guerre, voilà, même Aïmolto augmente un peu son prix, ces guerres russo-ukrainiennes et toutes des histoires là. Peut-être que ça va cesser un peu, mais nos pays resteront comme ils sont et on continuera à faire face à des difficultés que nous connaissons.
Oui, j'ai pu comprendre à travers son élection une chose triste. Que quelqu'un qui peut être poursuivi pour des actes de corruption ou de mœurs, mais le pays de grande démocratie est en mesure d'élire cette personne pour encore gouverner. C'est tout ce que moi je retiens comme leçon.
C'est ce que vous retenez comme leçon. Merci, oui. Chers confrères. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et nous allons donner la parole maintenant à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer aussi en ligne pour participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur que nous avons en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
D'accord, allez-y.
et je ne vais pas trop suivre, mais juste les dernières minutes m'intéressent aussi, Donald Trump. Oui, les gens disent que ça ne va rien changer pour l'Afrique. Mais les Africains le détestent, hein. Parce qu'ils savaient que s'il venait, ça peut changer quelque chose. La majorité des Africains, quand il y avait une tendance, ils étaient comme les Occidentaux. Comme quoi, ils les avaient traités de pays de merde. Nous, on profite déjà là-haut. Les premiers, comme avantages, c'est qu'on passe les élections au Togo prochainement. Qu'au petit matin, 2h, 5h, qu'on connaît déjà les résultats du gagnant. Je m'amusais la dernière fois quelque part en le disant, quand quelqu'un me disait que non, que le Togo est en avance, il a dit qu'il dépasse l'Amérique. Il a dit qu'on connaît le gagnant avant de commencer les élections. Et on prend le temps de compiler, rajuster les chiffres. Les présidents de CENI disent que bon, ok, c'est une erreur. Donc tout ça là, que les opposants, les politiques prennent ça. Si on peut proclamer les élections par CENI, quand une CENI finit, on proclame. Et la CENI ne fera que confirmer le résultat de CENI. Ça, ce sont des avantages. La prochaine fois, il faut que les opposants se prennent là-dessus. Et que Donald Trump, quand il dit que American First, beaucoup s'énervent. Mais c'est comme si au Togo, les gens viennent, ils installent les institutions. Après, quand on triche les Togolais ou bien on les vole, après on dit que l'État ne sait rien. Ce n'est pas ce que Donald Trump veut. Mais quand tu veux venir là, on va te connaître. Qui es-tu? Tu rentres dans le pays. Qu'est-ce que tu veux? Qui veut arrêter les mafieux?
D'accord.
Il faut bien opérer sur son terrain. Là, tu es libre de rentrer. Il ne veut pas renvoyer les gens comme ça.
Ok, oui, mais monsieur Nyamavo, merci. Allô. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Patrick.
Affirmatif.
D'accord, allez-y.
Comment vous allez ce matin?
Ça va, pas la grâce, et chez vous?
D'accord, je salue les autres journalistes aussi là-bas.
D'accord.
Bon, le premier sujet, concernant le stationnement des motos dans les services administratifs dont vous avez fait cas là.
Oui.
Je pense qu'il y a un bon développement que mon grand frère Jacques voulait minimiser un peu, quoi. Vous savez, les fonds là, comme l'a si bien dit Uriel, sont destinés à quoi? Les fonds là s'appellent comment? Prenons un exemple. Vous y allez là-bas, vous gardez votre moto, vous payez les 200, vous êtes parti. À votre retour, si vous ne retrouvez plus votre moto, qu'allez-vous faire? C'est vrai, vous devez payer, hein, vous avez le ticket à main. Et sur le ticket là, je parie que c'est le numéro qu'ils mettent. Vous revenez, vous avez bien payé, vous revenez, vous ne trouvez pas votre moto. Vous allez vous adresser à qui? Le gars, si oui, vous dites que c'est pas lui qui a écrit. Est-ce que pourquoi c'est le numéro là, qu'est-ce que ça signifie? Moi-même qui suis ici, nous le faisons. C'est-à-dire que c'est une entente entre ces gens-là et nous. Mais après ça, il n'y a pas une garantie. Ça, c'est-à-dire qu'on se le rassure, il n'y a pas une garantie. Plutôt, moi, j'aimerais qu'on réorganise ce secteur, comme souvent on a l'habitude de le dire, au niveau du secteur des carburants frelatés là. Ces gens-là, c'est du bonheur de ce qu'ils font. Mais si on les met en collaboration avec les services d'assurance de ce pays, parce que quand les motos là vont se perdre, le gars ne peut pas dans le bidon, vous l'achetez. Mais s'il y a une assurance derrière, nous serons mis combien 1000, 5000 par an ou par mois, que un quota soit fixé. En cas de pétition, on sait que voilà, au moins il y a une structure derrière qui peut quand même m'aider à acheter une nouvelle moto. Est-ce que ça serait mieux que de dire que voilà, les gens là. Bon, parfois, ben, ils demandent à ce que vous laissez vos clés. Est-ce que menti? Que laissez les clés à cas de mal, c'est-à-dire vous avez mal garé, vous déplacez les motos. Vous revenez, si c'est 10 motos, lui il a ramassé tout. Ben, si vous ne le voyez pas là-bas, vous allez attaquer qui? C'est ça.
D'accord.
Bon, pour finir là,
rapidement.
Donald Trump là, vous savez, pourquoi nous voulons toujours attendre des autres, hein? Actuellement là, le monde dans lequel nous sommes là, à partir de 2000 là, tout à fait, je ne sais pas pourquoi les gens sont toujours aveugles, hein, à ce que le monde là, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un traiteur d'égal à égal. Il n'y a plus que je vais t'amener seulement du miel, toi tu vas consommer. Et en retour, qu'est-ce que moi je vais gagner? L'Américain là-bas, vous pensez que l'Amérique n'a pas besoin de notre maïs? L'Amérique n'a pas besoin de nos arachides. Vous vous parlez seulement. On sait que le Togo ne fabrique pas les armes, les bateaux, les hélicoptères. Mais au même moment où vous voulez tirer des coopérations avec eux, vous aussi ayez une marque pour les proposer. Dans le retour, ils savent que ah, si je livre deux hélicoptères de guerre au Togo, je gagnerai deux sacs de maïs. C'est un exemple que je donne. C'est comme ça, c'est égal à égal. On a eu un peu d'embêtement. Merci. Je remets là-bas quelqu'un qui vous demande chaque fois des prêts là. À un moment donné, quelqu'un se fait. Vous le bloquez, non? Bonne émission.
Oui, merci beaucoup, Patrick. Vous avez été relativement long. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, je voulais intervenir au niveau des gens qui prennent de l'argent pour la garde des motos.
Oui.
Moi, je voulais juste qu'on les encourage. Premièrement, la radio Canal FM, comme l'invité nous a dit, qu'il ne faut pas qu'on attend tout de l'État, mais de mettre nos capacités pour créer des valeurs ajoutées. Maintenant, les gens créent eux-mêmes du travail, restent sous le soleil, protègent les engins des personnes. On dit que c'est trop. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on dit qu'il faut toujours digitaliser, le bémol, là, c'est que la main d'œuvre devient réduite. C'est-à-dire, la machine, l'intelligence artificielle prend toute la place. Et pour finir, moi, je pense qu'il faut encourager, et en même temps, nos soeurs qui servent dans les bars, les restaurants, les vendeuses de pirata en laissant des pouvoirs. Merci, Canal FM.
D'accord, merci Allô. Beaucoup, Nestor. Allô?
Allô?
Madame, oui?
Bonjour.
Bonjour, madame Essie.
Essie.
J'espère que vous allez bien.
Voilà. Il y a deux brûlés, quoi. On a rien foutre à nous réunir en téléphone. Voilà, j'avais parlé de moto. J'ai toujours dit que j'attends que les gens rentrent en ligne pour suivre ce que vous avez dit. On parle encore de moto en cette heure-là, au Togo. Et ça ne dit rien au gouvernement. Les motos. Que des motos, les immigrants, les machins. Ça n'avance pas un pays.
Allô, madame Messi. Oui, nous avons été précis. On parle alors du stationnement des motos.
Stationnement.
Oui, des motos déjà dans les services, devant les services d'État. Oui.
Il faut que chaque Togolais ait la possibilité d'avoir une voiture plus sécurisante. Il faut qu'on ait une voiture. Tout le monde doit avoir une voiture. On achète la voiture à 200 000 par exemple. Pourquoi? On peut la dédouaner à 250 000, ça suffira. On peut arrêter cette histoire de moto, qu'on en amène tous les jours, et puis la pollution et tout le reste. Non, il n'y en a pas besoin, quoi. Il faut qu'on avance. Vous avez parlé d'Apricia, tout de compte, tout ça, là. Hein? Tout ce qui a volé tout l'argent du pays, c'est les opposants, ou c'est nous, la population lambda. Tout ce qui a volé tout l'argent du pays. Et vous créez des trucs, ça nous perd le temps. On demande aux gens d'alterner tous les 5 ans, c'est tout, point. Et le pays va avancer, tout le monde va rentrer dans ses droits d'allocation, de bien-être, de travail décent. On ne va pas rester là à nous rouler en téléphone.
D'accord, merci.
À parler de la même chose.
Merci beaucoup, madame. Et si, je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allez.
Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Je vais bien.
Votre nom c'est
Nourou de Gomé.
Nourou, vous nous appelez Dadi de Gomé, allez-y.
Oh, il y a une chose. Jacques qui parlait des institutions, créer des institutions, ça fait dépasser. Effectivement, avant, on avait que 81 députés. Après, maintenant, ils sont allés à 91 députés. Aujourd'hui, nous avons 113 députés. Il n'y avait pas de sénateurs. Il n'y avait pas de gouverneurs. Il n'y avait pas de choses, de conseillers. Le Togolais vivait difficilement. Tout ça, là, c'est l'argent du pays qu'on va payer tout ce monde. On va trouver l'argent là où. Pour une seule personne.
D'accord.
En quoi qu'il passe, par exemple, les retraités, on a ajouté leur salaire, les vichiers, les gens ne sont pas mariés. Il faut romper tout ça, la commune des autres. C'est la population souffre. On sort partout, on dit que oui, on te voit, tout va bien. Les gars, la masse le riz sur les dépotoirs. Et vous dites maintenant, voilà, c'est pas bien.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nourou, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau. Ulel, nous allons faire un dernier tour de table rapidement. Nous avons quelques minutes seulement pour clôturer cette émission. Et donc, 30 secondes.
Oh, bon, 30 secondes, je pense que... il faut reconnaître quand même que les auditeurs ils nous suivent, mais par rapport au premier, juste lui rappeler que ce n'est pas l'élection de Donald Trump qui viendra changer le processus électoral ou les processus électoraux dans notre pays, comme il souhaite que désormais au Togo, lorsqu'on a une élection, en moins de combien d'heures on a les résultats. Ça ne signifie rien. L'élection de Donald Trump, ça s'arrête aux États-Unis. Ça ne changera rien au Togo. Ça ne changera rien dans les pays africains. Lui-même, quand il avait passé tout son mandat, il n'a jamais mis pied en Afrique. Est-ce que je ne sais pas s'il se rappelle. C'est au cours de son mandat, pour la première fois qu'on a vu qu'un président américain, il n'a jamais mis pied en Afrique.
Mais son aussi, donc, il n'a jamais mis pied en Afrique.
Il avait des envoyés qui sont venus, mais pour Donald Trump, c'était l'exception. Donc, il ne faut pas que les gens s'attendent à quelque chose. Rien.
D'accord. OK. Jacques, 30 secondes.
Non, je crois qu'il faudrait que chacun d'entre nous, surtout ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, fasse en sorte que lorsqu'ils tiennent l'os en haut, pour que l'os la tombe en bas, il ne faudrait pas que les gens s'entre-déchirent avant que l'os là ne puisse atteindre son objectif. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque la manne tombe, 35. Il ne faudrait pas qu'on se blesse avant d'avoir accès à cette manne là. C'est important.
D'accord. Dizier?
Non, moi, j'ai pas quelque chose à dire d'autre, je passe.
D'accord.
Mon grand frère a déjà parlé de
tu me
mal.
Donnes ton temps, c'est tout.
On va parler du cerveau.
Oui, au sujet de celui la fille disait que pour voilà. Le stationnement des motos, si jamais elle se perdait, à qui tu pourrais t'en prendre. Mais je précise, quand vous visitez le tribunal, comme je le répète là, c'est aménagé. Les gens qui gardent les motos portent désormais des gilets qui sont reconnaissables et ils délivrent des tickets sur lesquels on met le numéro de la moto. Donc ça veut dire que si toi tu vas, tu reviens, tu ne retrouves pas ta moto, tu sais à qui t'adresser.
Mm-mm. C'est plus ces gens-là, tu ne les retrouves pas aussi.
Faites un tour au tribunal. C'est moi-même qui suis allé. Tout a été réaménagé. C'est pas comme par le passé. Allez-y, vous serez agréablement surpris, je vous assure. Mais le tarif de 200 francs,
est-ce que c'est le premier responsable du service qui l'ont fait?
Je ne suis bien. Ça ne peut pas être le premier responsable, mais ça doit être des initiatives. C'est pour ça, moi, je parle même que les mairies s'en saisissent et initient ça dans d'autres structures.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson.
Ils sont plus chers que les péages même. Une moto paie 50 francs et là-bas, on paie 200.
Gosson, merci d'être passé dans cette émission. Uriel Lenyang, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Méga Info. Et Jacques Diakouti, merci d'être passé. Didier Assogba, merci aussi à toi d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Grand merci à vous puisque vous avez également enrichi ce débat de vos réflexions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Michel Tomega a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakouta. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.